de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ? Bonjour à tous et bienvenue. Qu'est-ce que l'Institut Pasteur ? Quelle est l'histoire de sa fondation en 1888 ? Comment s'est-il développé en France et à l'étranger ? Quel rôle a-t-il joué dans le rayonnement de la France ? Quel est son statut ? Comment est-il financé ? Quelles recherches y sont menées ? Quelles sont ses missions ? D'Émile Roux à François Jacob, qui furent les grands pasteuriens et qui sont leurs héritiers ? Autour de la question « Pourquoi l'Institut Pasteur ?», la réalisation est signée Cécile Bonici.
La voilà donc bâtie, cette grande maison dont on pourrait dire qu'il n'y a pas une pierre qui ne soit le signe matériel d'une généreuse pensée. Toutes les vertus se sont cotisées pour élever cette demeure du travail. Notre institut sera à la fois un dispensaire pour le traitement de la rage, un centre de recherche pour les maladies infectieuses, et un centre de renseignement pour les études qui relèvent de la microbie.
C'est une lecture par le comédien Louis Abressier du discours de Louis Pasteur lors de l'inauguration de l'Institut en 1888. Et c'est une archive de la Bibliothèque nationale de France. Bonjour Marie-Hélène Marchand.
Bonjour.
Alors vous avez fait une thèse de sciences politiques et vous avez ensuite bifurqué vers l'administration de la recherche. Et vous avez été longtemps secrétaire général de l'Institut Pasteur. Vous publiez aujourd'hui une histoire de l'Institut Pasteur au cœur de la santé publique mondiale aux éditions Priva. C'est un travail d'historienne qui est aussi nourri de votre connaissance très intime de l'Institut Pasteur. C'est ce mélange-là qui vous intéressait ?
Oui, absolument. Comme vous avez pu le deviner, j'aime beaucoup l'Institut Pasteur. J'y ai passé des années très heureuses et j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités tout à fait exceptionnelles. Et donc, je voulais faire ce portrait un peu historique et culturel de l'Institut Pasteur, parce que c'est assez paradoxal, le nom de Pasteur est archi connu dans le monde entier, tout le monde connaît le nom de l'Institut Pasteur, mais peu de gens savent au fond pourquoi dans quelles conditions et dans quelles circonstances il a été créé et ce qu'il fait.
Est-ce qu'on y fait réellement,
absolument.
Alors pour entrer de plein pied dans cette histoire, je voudrais vous faire écouter, Marie-Hélène Marchand, une archive de l'INA, c'est le témoignage de Joseph Meister, la première personne, un enfant que Pasteur a vacciné contre la rage. Il était interviewé en 1939.
Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc, en quelque sorte, servi de cobaye, le premier cobaye humain, à Pasteur. Et à vous voir, aujourd'hui, encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Vous avez sans doute conservé les meilleures relations avec Pasteur.
Parfaitement. Il s'est toujours inquiété de moi et c'est grâce à lui que je suis revenu à Paris. J'ai même travaillé un certain temps avec M. Pasteur lui-même dans son institut fondé en 1888.
Et cette vaccination a donc eu lieu le 6 juillet 1885 à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Cette archive est très connue, Marie-Hélène Marchand, mais elle est emblématique de la légende qui entoure Louis Pasteur.
Absolument, c'est cette première vaccination contre la rage. Donc en juillet 1885, il y a projeté Pasteur dans une notoriété non seulement française mais internationale. Il est apparu comme le sauveur de l'humanité, parce que la rage ne faisait pas tellement de victimes en France, mais les gens atteints de rage souffraient et mouraient dans des conditions tellement épouvantables que c'était devenu un mythe dans l'imaginaire des populations depuis toujours. Donc Pasteur arrivant à vaincre cette maladie est apparu vraiment comme le sauveur de l'humanité. Et c'est ça ce qui a entraîné la création de l'Institut Pasteur.
Voilà, les mordus affluent de partout. Et à un moment, l'Académie des sciences décide d'ouvrir une souscription qui permet la création de l'Institut.
Absolument. Très vite après la vaccination, quand Pasteur a eu annoncé le résultat positif, donc, au mois d'octobre, et finalement, l'Académie des sciences, en mars 1886, a lancé cette souscription pour la création d'un institut qui puisse se consacrer à la fois à la rage et aux maladies infectieuses de façon générale. Et cette souscription a été faite non seulement en France, mais à l'étranger, avec des personnalités très célèbres qui y ont participé.
Comme qui, par exemple ?
Comme, par exemple, l'empereur du Brésil.
Avec qui Pasteur avait des liens ?
Avec qui Pasteur avait des liens et que ça a renforcé, et avec le tsar de Russie, Alexandre III, avec le sultan du Maroc, et aussi des gens très modestes qui voulaient contribuer à la construction de cet institut. Donc la publication des listes des souscripteurs était très étonnante. Leurs noms paraissaient tous les jours dans les journaux, et c'était tout à fait extraordinaire.
Alors, je voudrais vous faire écouter une autre archive, c'est la voix d'Aimée Dumas, une vieille dame qui a connu Pasteur. Elle était interrogée en 1987 par Frédéric Rossif pour son film Pasteur le siècle, et elle avait à l'époque 110 ans.
Je l'ai connue dans mon enfance, quand mon père était directeur de l'école normale supérieure. Il habitait l'école normale, l'étage au-dessus de nous. C'était l'homme le plus aimable, le plus correct, le plus sensible qu'on puisse connaître. Mon père se promenait avec lui le soir dans le jardin et on le voyait rentrer dans son petit laboratoire qui était bien modeste. On n'aurait jamais cru que de grandes découvertes pourraient sortir d'un si petit laboratoire. C'était l'homme le plus modeste qu'on puisse voir, comme tous les grands hommes. Et un matin, quand j'étais regardée par la fenêtre, j'ai vu 8 hommes avec des bandages enveloppés dans des pelisses et qui stationnaient devant le laboratoire de M. Pasteur. J'ai demandé ce que c'était. J'étais très intéressée, j'ai des petites filles, des hommes avec des pansements. Et on m'a dit, ce sont des Russes qui ont été mordus par un loup enragé. On les envoie pour essayer de guérir.
Une réaction sur cette archive, Marie-Hélène Marchand ?
Ça m'amuse beaucoup de l'entendre, parce que c'est extrait du film que Frédéric Rossif a fait en 1987 pour le centenaire de l'Institut Pasteur. Il a fait un film magnifique qui évoque effectivement la création de Pasteur et le rayonnement de l'Institut Pasteur à travers le monde dans les instituts étrangers, en Afrique et en Asie. Et c'était vraiment un très beau film.
Alors avec cette archive, on est encore dans la légende de Pasteur, chercheur très solitaire dans sa mansarde. Justement, comment passe-t-on de cette recherche très solitaire à un vrai institut avec plusieurs chercheurs, puis de très nombreux chercheurs, Marie-Hélène Marchand?
Alors, la recherche, autrefois, était, au temps de Pasteur, était évidemment très, très individuelle. Elle a beaucoup changé de caractère avec les années, et maintenant, même s'il y a des individualités qui comptent beaucoup, c'est vraiment un travail d'équipe, et les groupes de recherche travaillent vraiment ensemble sur des sujets donnés. C'est difficile d'imaginer de nos jours un chercheur travaillant seul dans son coin.
Mais si on reste dans cette période de la fin du 19e siècle, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, l'Institut Pasteur pratique déjà l'interdisciplinarité, puisque de jeunes et brillants chercheurs se pressent à l'Institut, des chimistes, des médecins, des physiciens, mais aussi des vétérinaires, des bactériologistes. Et ça, c'est très moderne.
C'est très moderne, et Pasteur c'est un des domaines où Pasteur était particulièrement visionnaire, comme beaucoup d'autres. Il n'était pas attaché à une formation particulière, ni à un diplôme particulier, mais pour lui l'essentiel c'était de regrouper autour de lui des gens compétents bien sûr, mais enthousiastes et désireux d'appliquer ce qu'on appelait à l'époque la méthode. C'était très important pour lui.
Alors justement, quelle est la méthode de Pasteur et des Pasteuriens à la Fondation?
La méthode, c'était essentiellement la rigueur dans l'expérimentation. Pasteur était un expérimentateur absolument hors pair.
Chimiste de formation et non pas médecin.
Absolument, c'est pour ça que ce n'est pas lui qui a fait la première vaccination contre la rage. Mais il avait un...
C'est un médecin, c'est Granchet?
C'est Granchet, absolument, qui a accompagné Pasteur de façon remarquable dans toute cette partie, cette époque-là, et qui dirigeait le service des vaccinations au moment de, après la création de l'Institut Pasteur.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse aux pasteuriens célèbres, aux lieutenants de Louis Pasteur et notamment à Émile Roux qui a joué un grand rôle dans cette histoire. On en parle juste après Paparazzi and the Photogs. La chanson s'appelle Louis Pasteur Fought Germs.
Oh, Louis Pasteur, he was a great man. He killed all the germs that were killing people. Louis Pasteur, he figured out a magic way to fix milk. And the milk used to kill people. But Louis Pasteur said, me. The milk will never bother you again if you just let me fix it. Louis Pasteur, he fixed the world. Everybody used to die all the time. But Louis Pasteur said, I'm gonna fix people so they don't die so much. Delicious. I don't know what I would do with myself if it wasn't for good old Louis Pasteur.
Paparazzi sur RFI, Louis Pasteur Fought Germs. Louis Pasteur a combattu les germes, preuve que Pasteur est vraiment une légende encore aujourd'hui, Marie-Hélène Marchand. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse particulièrement à l'un des lieutenants de Pasteur, c'est le docteur Émile Roux, qui a régné sans partage sur l'enseignement à l'Institut pendant 30 ans. Écoutez l'extrait d'un téléfilm d'Alain Brunard diffusé en 2011 sur France 2. Pasteur et Roux découvrent le vaccin du choléra des poules.
Je comprends pas, elle est vivante.
Votre don d'observation m'étonnera toujours.
Mais je l'ai inoculée. Elle devrait être morte.
Vous avez utilisé la bonne souche?
Je crois. J'ai dû l'oublier quand on est parti en congé. Je vais l'acheter.
Non, attendez. Injectez à votre poule une souche très virulente.
Pourquoi?
Pour vérifier que vous n'êtes pas tombé sur la poule la plus résistante du monde.
Le produit n'était pas altéré cette fois. J'en suis sûr. Elle devrait être morte, je comprends pas.
Je sais. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, mon cher Roux.
Pardon.
Jenner, ça vous rappelle quelque chose? Jenner avait compris qu'on pouvait se protéger de la variole des hommes par une maladie qui lui ressemble et qui est moins puissante. La variole des vaches. Variolae vaccinae. La vaccine était née. Elle a sauvé des millions de vies humaines. C'est exactement la même chose ici. Votre flacon a attendu si longtemps que les micro-organismes qu'il contient se sont épuisés, atténués. Trop faibles pour tuer la poule, mais assez forts pour l'immuniser.
André Marcon qui joue Louis Pasteur et Bruno Todeschini dans le rôle d'Émile Roux. Précisément, Marie-Hélène Marchand, quelle est l'importance du docteur Roux dans l'histoire de l'Institut Pasteur? Elle est énorme.
Le docteur Roux était très important. C'était le collaborateur le plus proche de Pasteur qui lui apportait un complément intellectuel très important au moment des travaux sur la rage, comme on l'entend dans cet extrait. Et ensuite, il a dirigé non seulement l'enseignement, mais l'Institut Pasteur dans son ensemble. Vous savez que quand l'Institut a été créé, Pasteur était déjà très fatigué. Donc, c'est vraiment le docteur Roux qui était le directeur scientifique très efficace de Pasteur, et c'est vraiment lui qui a battu l'Institut Pasteur du début. Et il a dirigé donc l'institut d'une main de fer même pendant une trentaine d'années.
Donc il est mort en 33.
Il est mort en 33. Il avait prévu de préparer Calmette pour lui succéder. Et malheureusement, Calmette est mort 8 jours avant le docteur Roux, qui a naturellement déjoué tous les plans. Et le docteur Roux était d'un très grand ascétisme, d'une très grande austérité. Il n'avait pas beaucoup de sens pratique. Et donc, l'organisation de l'Institut Pasteur avait besoin d'être réorganisé au moment de sa mort.
Mais c'est quand même sous son impulsion que l'Institut s'est agrandi, de nombreux terrains ont été achetés, surtout l'hôpital a été construit en 1900.
Absolument. Le docteur Roux a fait construire l'hôpital en 1900 grâce au don de Madame Le Baudy, qui était une personnalité un peu excentrique et pour le moins très originale, puisqu'elle donnait rendez-vous au directeur de l'Institut Pasteur sous l'Arc de Triomphe pour lui remettre des enveloppes pleines de billets pour la construction de l'hôpital.
Alors, dans ce livre, Marie-Hélène Marchand, vous brossez le portrait de nombreux pasteuriens. Donc, on peut citer le docteur Granchet, qui a aidé Pasteur pour la vaccination contre la rage. Duclos, Metchnikov, qui découvre la phagocytose, qui lui vaudra le prix Nobel et restera toute sa vie à l'Institut. Et puis, il y a tous les pasteuriens qui sont partis à l'étranger. Parmi eux, Yersin ou encore Calmette. Je voudrais vous faire entendre la voix de Pasteur Valéry Radeau, dit PVR, petit-fils de Louis Pasteur, qui est devenu président de l'Institut. Écoutez sa voix en 1947 et il parlait du rayonnement de l'Institut à l'étranger.
Dès que l'Institut Pasteur fut fondé, Pasteur songea à envoyer des missionnaires dans le monde pour enseigner et développer la science nouvelle et pour rendre service aux nations qui s'adressaient à la France afin de combattre les épidémies et les épizooties. Yersin, Calmette, Adrien Loire furent parmi ses premiers missionnaires. Calmette fonda en 1890 un laboratoire, bientôt devenu un institut, à Saïgon. Depuis, les instituts pasteurs de notre empire n'ont fait que se développer. Monsieur Noël Bernard a organisé 4 instituts en Indochine, qui sont parmi les plus belles réalisations de notre œuvre civilisatrice et ont rendu d'inappréciables services. En Afrique du Nord, nous avons les instituts pasteurs d'Alger, de Tunis, de Casablanca, ainsi que celui de Tanger. En Afrique occidentale, ceux de Dakar et de Kindia. En Afrique équatoriale, celui de Brazzaville. À Madagascar, celui de Tananarive. Nous en avons encore un autre à la Martinique. Enfin, existe dans les pays étrangers un institut à Athènes, un autre à Téhéran, un autre à Shanghai. C'est vous dire combien l'Institut Pasteur de Paris rayonne sur le monde.
Et ce rayonnement à l'étranger est l'une des missions de l'Institut dès le début. Pasteur avait compris qu'il fallait partir à l'étranger, Marie-Hélène Marchand.
Absolument. Pasteur avait dit très vite, il faudra former des jeunes médecins qui iront porter la méthode à l'étranger. Et il était aussi visionnaire dans ce domaine, parce qu'il s'intéressait donc non seulement à nos maladies, si je peux dire, mais aussi aux maladies des pays du Sud, des pays chauds, pour leur apporter une solution.
Voilà, et ces lieutenants qui sont partis à l'étranger, vous les appelez les French Doctors de la fin du 19e siècle. C'était presque des aventuriers, au fond. Enfin, si on prend la figure de Yersin, par exemple, qui a vaincu la peste.
C'était des gens extraordinaires dont on mesure mal, dont on connaît malheureusement mal aujourd'hui le degré de courage, de ténacité que ça représentait pour partir dans ces pays qu'on connaissait quand même pas très bien et dans des conditions de santé tout à fait difficile. Calmette a fondé le premier institut Pasteur en Indochine et Yersin à celui de Nha Trang en étant non seulement chercheur, mais aussi en contribuant beaucoup au développement de l'Indochine, en créant des routes, en aidant les Vietnamiens, en développant la culture de l'EVA. Enfin, c'était vraiment.
Et il y restait jusqu'à sa mort en 1943. Autour de la question pourquoi l'Institut Pasteur, nous allons parler dans la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale et de l'après, jusqu'à nos jours. Marie-Hélène Marchand, vous restez avec nous. On se retrouve juste après les informations sur RFI.
de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, pourquoi l'Institut Pasteur, avec Marie-Hélène Marchand, auteure de Une histoire de l'Institut Pasteur au cœur de la santé publique mondiale, paru chez Privat. Je voudrais vous faire écouter la voix de Jacques Tréfouel, qui dirigea l'Institut pendant la période troublée de la Seconde Guerre mondiale. L'archive date de 1947 et il fait visiter le laboratoire de chimie.
Alors, monsieur Nicole vient de vous conduire ici dans ce service qui a été fondé par le professeur Metchnikoff. Vous savez, Metchnikoff, c'est le grand savant qui a découvert la phagocytose, c'est-à-dire l'action des globules blancs sur les microbes. C'est en effet lui qui a mis au point et qui a montré que c'était les globules blancs qui, dans l'organisme, arrivaient à détruire tous les microbes par phagocytose. Ensuite, ce service a été occupé et dirigé par le professeur Besredka. Besredka est l'homme qui a fait les travaux sur l'immunité locale, sur la désensibilisation, enfin, qui était un très grand savant et que nous avons perdu il y a quelques années, malheureusement. Et il a été suivi du professeur Volman, dont nous avons eu à déplorer la mort pendant la guerre. Il a été en effet emmené par les Allemands dans un camp et vraisemblablement, il a dû être passé au four crématoire d'après les renseignements que nous avons pu obtenir. C'est une histoire qui restait très triste. Et celui qui dirige maintenant ce service, c'est monsieur Pierre Nicole, le fils du grand Charles Nicole, qui maintenant s'occupe de la question des bactériophages, c'est-à-dire qui a continué les travaux de son maître Volman.
Jacques Tréfouel prend soin de rendre hommage à ses prédécesseurs, Marie-Hélène Marchand. Un mot peut-être d'Eugène et Elisabeth Volman, qui furent arrêtés et déportés à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'était les parents d'Elie Volman, qui est donc un très grand pasteurien. Évidemment, l'arrestation de ses parents a été tragique. Sa mère a été arrêtée la première, et 8 jours après, son père a été arrêté quand il se cachait à l'hôpital Pasteur, et malheureusement ils ne sont jamais revenus ni l'un ni l'autre, et c'était de très grands scientifiques dont leur fils a hérité tout le talent et les qualités.
Quel a été le rôle de l'Institut Pasteur pendant les deux guerres mondiales, Marie-Hélène Marchand?
Pendant la Première Guerre mondiale, on peut dire que l'Institut Pasteur s'est vraiment mis au service du pays. Les recherches, évidemment, se sont arrêtées, pratiquement. Mais en revanche, l'Institut s'est mis à fabriquer énormément de sérums et de vaccins qu'il a livrés gratuitement aux armées alliées. Un des chercheurs de Pasteur, Monsieur Legroux, a été extrêmement actif pendant ces années de guerre en animant et en réalisant des laboratoires mobiles sur le front. Donc il était vraiment sur tous les fronts au sens strict du terme. Et tous ces efforts ont évité probablement de nombreuses morts dues aux épidémies. Il se trouve que Nicole avait découvert peu de temps avant la guerre le rôle du pouls dans la propagation du typhus, et donc ça a permis de lutter énormément contre les pouls et donc d'éviter beaucoup de contagions dans les tranchées, ce qui était, en plus de l'enfer des armes, il y avait l'enfer de la maladie.
Et pendant la Seconde Guerre mondiale, donc Jacques Tréfouel, dont on a entendu la voix, était lui-même dans la résistance. Et alors vous racontez une histoire absolument incroyable d'un pasteurien qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a réussi à contaminer du beurre destiné aux Allemands en volant un bacille du typhus.
Absolument.
Il y a beaucoup d'histoires comme ça.
Il y en a quelques-unes. Certains ont supposé être plutôt collaborateurs, mais d'autres ont fait beaucoup de résistance. Et l'Institut Pasteur avait d'ailleurs déménagé l'un de ses laboratoires en province pour continuer ses activités.
Il y a eu une épuration après la guerre à l'Institut?
Pasteur Valéry Radeau y a pensé. L'atmosphère n'était pas très bonne, probablement immédiatement en 1945, parce que certains tous n'avaient pas fait le même choix pendant la guerre. Après, les choses se sont tassées. Il n'y a pas eu vraiment d'épuration proprement dite, mais il y avait probablement un climat un peu lourd juste après la guerre.
En termes de recherche pure, qu'est-ce qui change à l'Institut Pasteur dans les années 50? Est-ce que l'Institut prend un virage?
l'Institut prend un très grand virage avec l'équipe de François Jacob, Jacques Monod et Monsieur Lvoff, André Lvoff, qui s'oriente vers la biologie moléculaire et donc vers une partie plus fondamentale. La première partie de l'histoire de l'Institut Pasteur, les chercheurs s'étaient consacrés à l'étude des virus, des bactéries, des parasites en tant que tels. L'équipe des prix Nobel, puisqu'ils auront le prix Nobel pour ça,
en 65,
s'attache à comprendre les mécanismes du vivant à travers l'étude de ces virus et de ces bactéries.
Alors on va précisément entendre la voix de Jacques Monod, qui a donc obtenu le prix Nobel en 1965 avec François Jacob et André Lvoff. Écoutez sa voix en 1971, alors qu'il vient d'être nommé directeur de l'Institut Pasteur.
Après mûre réflexion, j'estimais qu'il était de mon devoir de l'accepter dans les circonstances présentes. L'Institut Pasteur a vécu longtemps un peu sur sa lancée, un peu sur sa gloire. Une institution, pour rester vivante et surtout une institution de recherche, doit entretenir et renouveler constamment ses efforts. Après tout, la recherche, ça consiste à vivre au bord de l'inconnu, et c'est une existence un peu dure et périlleuse pour le chercheur et pour l'institution aussi, qui doit se maintenir au plus haut niveau de la recherche internationale.
Que représente l'Institut Pasteur en 1971?
Eh bien, il représente quelque chose d'unique, monsieur. Il représente la seule grande institution de recherche française qui soit une fondation privée, qui ait donc son autonomie de gestion, son autonomie de direction et une très large part d'autonomie financière. Bien entendu, comme l'Institut Pasteur rend de très grands services sur le plan national, ces services sont reconnus par la puissance publique qui lui alloue une subvention importante. Mais il reste que l'Institut Pasteur assure encore pour une très large part son propre financement par la vente des produits biologiques qui sont le fruit de ses propres travaux d'ailleurs.
L'Institut Pasteur est une fondation privée depuis le début, Marie-Hélène Marchand. Ça a du mal à rentrer dans la tête du grand public.
Mais oui, il y a beaucoup de gens qui considèrent encore qui pensent que l'Institut Pasteur est public. Mais ce n'est pas exact. C'est une fondation privée et qui naturellement tient à le rester pour l'indépendance et la liberté que ça lui accorde.
Donc les ressources viennent du mécénat, un peu de l'État quand même, et des ressources propres?
Absolument, il y a trois catégories de recettes dans le budget de l'Institut Pasteur. Il y a les ressources propres de l'Institut qui viennent essentiellement de ses contrats industriels et de l'usage du nom de Pasteur et des contrats de recherche que obtiennent les chercheurs. La deuxième partie, c'est une subvention de l'État qui autrefois, enfin il y a autour des années 70,
alors justement, 80, sous la direction Monod, elle a augmenté à 50%.
Monod a vraiment sauvé l'Institut Pasteur, qui était dans une situation financière extrêmement difficile et sur le point de licencier pas mal de gens et à la limite de fermer. Donc Monod a obtenu du gouvernement d'élever la subvention à 50%, ce qui a été considérable. Maintenant, cette subvention a baissé et elle représente, je crois, un tiers du budget actuel de l'Institut Pasteur. Et la troisième partie, c'est le mécénat, c'est-à-dire les dons et legs, qui sont une tradition à l'Institut Pasteur depuis sa création.
Mais est-ce que le fait pour Monod de demander une augmentation de la subvention à l'époque, c'était Simone Veil qui était ministre de la Santé, est-ce que ça signifiait la reconnaissance de l'Institut Pasteur comme une espèce de service public?
Absolument. Et d'ailleurs, certains laboratoires de l'Institut Pasteur fonctionnent, ce qu'on appelle les centres de référence, fonctionnent vraiment directement pour le ministère de la Santé, en étant des centres de référence pour un certain nombre de maladies. C'est-à-dire que quand il y a une épidémie ou de salmonellose ou de grippe particulière ou d'une autre maladie, ce sont les identifications des souches se font à l'Institut Pasteur, et c'est très important pour le ministère de la Santé.
Et vous dites dans votre livre que Jacques Monod a fait la révolution, c'est aussi une révolution scientifique. Comment a-t-il réorganisé les activités de l'Institut ?
Il a fait une chose très importante, c'est qu'il a séparé, entre autres, il a séparé l'activité de production de l'activité de recherche. Depuis le début de l'Institut Pasteur, la production de vaccins était assurée par l'Institut Pasteur, mais au fur et à mesure de l'évolution des activités pharmaceutiques et de la modernisation de la recherche, ce n'était plus possible de le faire de façon plus ou moins artisanale. Et il a fallu, donc Monod a pris la décision de séparer complètement les activités de recherche des activités de production qui sont d'une nature complètement différente.
Est-ce que l'obtention en 1965 de ce prix Nobel met un énorme coup de projecteur sur l'Institut Pasteur ?
Ça a mis un énorme coup de projecteur, d'autant que l'équipe à ce moment-là de Pasteur, l'équipe de François Jacob et Monod et Lvov n'était pas très connue du grand public et même des pouvoirs publics. Ils étaient surtout aidés par des fondations américaines, donc ça a été un peu comme un coup de tonnerre.
Alors, Monod est immanquablement associé à François Jacob. Écoutez sa voix, c'était en 1974.
Ce sont des travaux un peu nouveaux. Jusqu'à vers 1968, je travaillais avec des bactéries. Nous avions un groupe qui était composé principalement de biochimistes, de généticiens et de physico-chimistes. Et nous analysions la cellule bactérienne, ses propriétés génétiques, les mécanismes de régulation, la façon dont elle module ses synthèses en fonction de la croissance et en fonction du milieu qui lui est proposé. Et puis vers les années 69-70, j'ai décidé de changer de sujet de recherche et de travailler sur des organismes plus compliqués, sur des sujets que l'on ne peut pas abordés chez les micro-organismes comme les bactéries. Les bactéries sont des organismes unicellulaires. La cellule est l'organisme. Et je voulais analyser un peu les mécanismes qui conduisent à la différenciation. L'intérêt, je pense, de la science, c'est que ça n'est jamais fini. C'est toujours quelque chose de non fini. On peut toujours aller plus profondément.
La science, ça n'est jamais fini, dit François Jacob. Vous l'avez côtoyé, Marie-Hélène Marchand ?
Ah, beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec lui. J'ai eu cette chance quand il était président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur. Oui, je le voyais énormément.
C'est une personnalité beaucoup plus effacée que Jacques Monod, qui fuyait absolument les médias.
Je dirais pas effacée, parce qu'il avait une très forte personnalité, mais très réservée. Certainement, et il impressionnait beaucoup ses collègues et ses collaborateurs de façon générale.
Vous décrivez dans cet ouvrage son parcours personnel, résistant dès 1940, médecin combattant, compagnon de la Libération, voilà, forte personnalité et grand chercheur. Son parcours est indissociable de l'Institut Pasteur.
Oui, il symbolisait l'Institut Pasteur pendant des années et comme il avait de façon très sympathique, accepté d'être président du conseil d'administration, ça a été un élément très important pour l'Institut de se faire connaître davantage, et en particulier au moment des manifestations du centenaire de l'Institut Pasteur en 1987, il nous a vraiment apporté un concours magnifique.
10 pasteuriens ont eu le prix Nobel, Marie-Hélène Marchand. Le premier, c'était Alphonse Lavran en 1907. Le dernier, c'était Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi pour la découverte du virus du sida. C'est énorme, cette liste.
C'est beaucoup, c'est une très belle liste pour l'Institut Pasteur et c'est vraiment un signe à la fois de satisfaction pour l'Institut, bien sûr, et de reconnaissance de la qualité des recherches qui sont menées, qui peuvent permettre toujours l'émergence. L'atmosphère de l'Institut permet l'émergence à la fois de personnalités un peu hors normes et de chercheurs de très grande qualité.
Alors justement, si on parle de l'émergence de ces personnalités, Jacques Monod et François Jacob ont formé toute une génération de chercheurs. Qui sont leurs héritiers ?
Il y en a un certain nombre dont c'est difficile d'en nommer quelques-uns. Je pense à Pascal Cossard, par exemple, qui a été, je crois, élève de Monod et Jacob, je crois.
On peut citer aussi Jean-Pierre Changeux, Maxime Schwartz, qui a dirigé longtemps l'Institut Pasteur.
Absolument. Philippe Kurilski, bien sûr. Voilà, c'est difficile de nommer tel ou tel héritier direct de... Mais enfin, tous ont été très impressionnés et très formés par ces prix Nobel.
Donc, les choses s'accélèrent encore dans ces années 70, jusqu'au début des années 80, où là, il va y avoir une bascule avec l'arrivée du virus du sida. Mais les années 70, c'est le développement du génie génétique.
Absolument. Ça, c'était une nouvelle phase pour l'Institut Pasteur, où Philippe Kurilski a joué un grand rôle dans ce domaine-là. Et si vous voulez, ce qui est intéressant à Pasteur, c'est que c'est à la fois pour les débuts, c'est une plongée dans la fin du 19e siècle, et maintenant c'est une plongée vraiment dans le 21e siècle.
Dans l'ultra-modernité.
Dans l'ultra-moderne, absolument.
Alors, je le disais, au début des années 80, une nouvelle maladie fait son apparition, c'est le sida, et qui fait entrer l'Institut Pasteur dans une nouvelle période. On va en parler juste après Elisa, Louis Pasteur sur RFI. Pasteur sur RFI, elle est camerounaise. Ça vous amuse, Marie-Hélène Marchand, de voir la modernité de Louis Pasteur?
Oui, ça m'amuse et ça me rappelle le film de Frédéric Rossif, où on voyait en effet des Africains superbes avec des robes magnifiques aller dans les dispensaires de l'Institut Pasteur en pleine brousse. Et on se rend compte, en partie pour ça, comment le nom de Pasteur est si connu.
Voilà, Pasteur et les Pasteuriens, notamment Yersin, ce sont des stars absolues à l'étranger. Et d'ailleurs, vous reproduisez dans votre livre une carte très passionnante sur tous les rayonnements des instituts Pasteur à l'étranger. Il y en a combien dans le monde?
Il y en a maintenant 32. et qui était au début uniquement dans les anciennes colonies françaises et qui se sont qui ont été élargies à certains pays d'Asie du Sud-Est, à Hong Kong, en Corée en particulier, au Laos récemment. Un institut Pasteur vient d'être créé au Laos, et il y en a également en Amérique du Sud, à Montevideo, et beaucoup en Afrique, au Maghreb, en Algérie, Tunisie et Maroc, et en Afrique noire, bien sûr.
Alors, on parlait tout à l'heure du début des années 80 et de l'apparition du virus du sida qui fait entrer l'Institut Pasteur dans une nouvelle période. Je voudrais vous faire écouter la voix du professeur Luc Montagnier sur France Inter en 1985.
On a pu déchiffrer complètement l'alphabet, le langage du virus. Alors, les conséquences à attendre de ce travail, c'est de mieux connaître le virus et également de penser à faire des tests qui seront moins coûteux et plus fiables que ceux qu'on envisage de distribuer cette année. Avant le vaccin, il y aura deux étapes. Il y a l'étape de détection des infections virales par un test sanguin qui, elle, va probablement commencer dès cette année. Et une étape également, peut-être, de traitement, sachant comment le virus peut causer la maladie, on peut envisager des traitements spécifiques. Et le vaccin est une affaire à long terme. Le virus de sida semble peu contagieux. S'il était très contagieux, on aurait déjà des millions de personnes atteintes. C'est pas du tout le cas. Il passe parfois par les transfusions sanguines, mais enfin, il y a des millions de transfusions sanguines faites chaque année, et on a seulement, heureusement, que quelques cas de sida. Donc on peut penser que le virus est relativement peu contagieux. Et notamment, le personnel médical n'a pas à trop s'alarmer. Bien entendu, il faut prendre des précautions, mais il n'y a pratiquement aucun cas de personne, de médecin, qui s'est contaminé à partir d'un malade.
On était en 1985, Marie-Hélène Marchand, c'est dire à quel point la recherche sur le sida a fait des progrès. C'est fou d'entendre ça aujourd'hui.
Ah oui, c'est même très étonnant. Parce que c'était tout de même 2 ans après la découverte du virus. Évidemment, à l'époque, on espérait trouver un vaccin beaucoup plus vite. Mais la complexité du virus du sida fait que c'est toujours extrêmement difficile et qu'on ne l'a pas encore trouvé. Cela dit, il n'y a pas non plus de vaccin contre le paludisme, qui est une maladie qu'on connaît depuis beaucoup plus longtemps et qui est aussi très très difficile à mettre au point, manifestement.
Ça fait partie des recherches en cours,
absolument.
Très très actives.
À l'Institut Pasteur, absolument.
Mais qu'est-ce que l'apparition du virus du sida a changé dans la manière de travailler de l'Institut Pasteur ? Vous dites dans votre livre que l'Institut entre vraiment dans une nouvelle période. Ça veut dire qu'on se focalise beaucoup sur cette recherche et qu'on abandonne peut-être d'autres recherches?
C'est-à-dire, compte tenu de l'ampleur de la maladie et de sa gravité et des populations qu'elle touchait, c'est vrai que les recherches sur le sida ont reçu une impulsion très particulière. Ça n'a pas changé fondamentalement la façon de travailler en matière scientifique. Mais évidemment, ça a donné d'abord beaucoup de notoriété à l'Institut Pasteur, beaucoup, puisque avec le conflit américain, on a beaucoup parlé de l'Institut Pasteur.
Alors justement, qu'est-ce qui se passe avec les Américains à cette période-là?
Eh bien, c'était le professeur Gallo qui prétendait avoir découvert le premier le virus du sida, et la réalité était que c'était l'équipe de Pasteur, du professeur Montagnier, de Françoise Barré-Sinoussi, dont on a prouvé qu'ils étaient les vrais découvreurs du sida.
Donc là encore, gros coup de projecteur sur l'Institut Pasteur.
Absolument, grâce au procès que Raymond de Donder, à ce moment-là directeur de l'Institut Pasteur, a intenté au gouvernement américain. Et dont les suites ont été reprises par Maxime Schwartz pour compléter ce qui avait été acquis à l'issue du premier procès.
Qu'est-ce qui se développe à l'Institut Pasteur après les années 80 dans d'autres domaines, la génomique, le développement des neurosciences?
Oui, il y a des recherches tout de même un peu plus larges qu'avant, en particulier en matière de neurobiologie. On travaille sur la surdité, une équipe très en pointe là-dessus, sur l'autisme, sur enfin dans un autre domaine sur les vaccins contre, sur le cancer, il y a un certain nombre de recherches fondamentales dont d'ailleurs on ne sait pas à quelles maladies, si on peut dire, elles bénéficieront, puisque la recherche c'est tout de même très large et il faut poursuivre quelquefois dans l'inconnu pour déboucher sur des résultats qui peuvent être utiles pour telle ou telle maladie.
Alors on parlait tout à l'heure, Marie-Hélène Marchand, des instituts Pasteur à l'étranger qui sont structurés en réseau, et là encore c'est Jacques Monod qui a redonné vigueur à l'ensemble de ces instituts. Je voudrais qu'on prenne un exemple, c'est à Madagascar. Écoutez le témoignage de Lila Rallison, elle est responsable de l'unité peste à l'Institut Pasteur d'Antananarivo, et c'était un reportage diffusé sur France Inter en 2008.
C'est une maladie qui finalement réémerge aujourd'hui. Il y a des foyers qu'on croyait éteints où des cas réapparaissent. C'est le cas de l'Algérie. En 2005, il y a eu dans la région d'Oran, par exemple, réapparition de cas de peste après presque un peu plus de 60 ans de silence. Ce qu'on trouve le plus souvent à Madagascar, c'est ce qu'on appelle la peste bubonique, celle qui est transmise par les puces. Donc l'homme se fait piquer par des puces infectées. Ça évolue assez vite. L'homme développe une tuméfaction de ganglion où la bactérie va se développer, ce qu'on appelle le bubon. C'est accompagné de fièvres très élevées, mortelles si ce n'est pas traité à temps.
Alors qu'est-ce que vous faites ici précisément dans ce laboratoire ?
Nous faisons le diagnostic biologique des cas de peste suspectés à Madagascar, et d'autre part, on a notre volet recherche pour comprendre vraiment mais comment il se comporte, le rat qu'on trouve chez nous, par rapport à la maladie.
La preuve que le travail des instituts Pasteur est encore très 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 important. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Marie-Hélène Marchand, merci beaucoup. Je renvoie à votre livre Une histoire de l'Institut Pasteur, paru aux éditions Priva. Merci beaucoup d'être venue en direct avec nous sur RFI. Un grand merci à Cécile Bonici pour la réalisation.
Merci.